à bâton rompu. À bâton rompu, une émission proposée par Bruno Cyr.
Lucie Sourza, bonjour et merci d'être, d'être venue pour ce troisième entretien sur le projet de loi sur la fin de vie. Alors je rappelle en deux mots que les deux précédents entretiens ont été, pour le premier, vous nous avez fait l'état du droit avec les différents textes depuis 1999, quatre textes qui se sont suivis jusqu'en 2016, plus un certain nombre de précisions dans les décrets d'application. Donc il y a déjà tout un arsenal juridique que vous nous avez rapidement expliqué de façon extrêmement claire. J'invite nos auditeurs à s'y reporter par les podcasts s'ils le souhaitent. Le deuxième débat, on s'est focalisé sur le projet de texte, puisqu'il y a deux textes en discussion, le projet sur les soins palliatifs. Et je voudrais aujourd'hui, vous qui êtes maître de conférence en droit public, spécialiste de ces questions à l'Université Toulouse-Capitole, que vous nous expliquiez ce qu'il y a dans le projet de loi sur l'aide active à mourir. Je rappelle que ce projet a été accepté à la majorité relative, alors que le texte sur les soins palliatifs avait été accepté à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Il viendra en discussion au Sénat au mois d'octobre. Si le Sénat ne vote pas le même texte que l'Assemblée nationale, il y aura ensuite tout un arsenal, enfin, une procédure qui permet d'essayer de mettre d'accord les deux et en fin de compte de donner le dernier mot à l'Assemblée nationale. Donc tout ça, c'est le contexte du débat, mais évidemment c'est le texte qui a fait le plus parler parce que c'est le texte le plus difficile sur le plan de l'éthique et de la morale. Alors je rappelle, parce que vous n'êtes pas là pour nous dire précisément ce qu'il faut penser, mais pour nous donner l'état du droit, je rappelle que les évêques de France se sont clairement positionnés sur ce projet spécifique de l'aide active à mourir. Pour résumer en trois points ce qu'ont dit les évêques de France, ils s'opposent fermement à la proposition de loi qu'ils considèrent comme une menace grave et irréversible pour la société. Effectivement, on imagine mal revenir en arrière une fois qu'un tel texte sera adopté, comme on l'a vu sur d'autres, l'IVG, etc. Deuxième point, ils redoutent un élargissement progressif du texte à des publics vulnérables. Et ils s'inquiètent pour les plus fragiles qui pourraient se sentir indésirables et finalement demander à ce qu'on les aide à mourir. Et troisièmement, ils disent qu'il faut développer les soins palliatifs et ils rappellent que la loi Claeys-Leonetti, comme vous l'avez exposé précédemment, offre déjà un cadre humain et équilibré qui reste trop peu appliqué et que c'est là-dessus qu'il faut travailler. Voilà la position des chrétiens, de leurs représentants, des évêques de France. Bon, maintenant, parlez-nous du texte et du débat.
Bien sûr. Alors effectivement, comme vous l'avez très bien rappelé, hein, deux textes, deux propositions de loi. Donc on avait déjà évoqué celle sur les soins palliatifs lors de notre dernière rencontre. Alors le deuxième texte, donc proposition de loi relative à cette fameuse aide active à mourir. Alors permettez-moi de définir l'aide active à mourir. C'est le droit à l'aide à mourir consiste, dit le texte, à autoriser et à accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale, d'où la différence avec la sédation profonde et continue, oui, jusqu'au décès, afin qu'elle se l'administre ou, lorsqu'elle n'est pas physiquement en mesure d'y procéder, se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier.
C'est-à-dire que quelqu'un injecterait un produit qui va faire mourir les gens.
Voilà, donc on n'est pas dans une mort naturelle. On est sur un geste létal, je le répète, qui n'a rien à voir avec l'acte de sédation profonde et continue, maintenu jusqu'au décès, qui n'est pas du tout un acte létal. Voilà, donc ça, c'est la première différence à bien noter entre les deux interventions. Ensuite, cette proposition de loi pose, heureusement, des conditions. Donc, on a 5 conditions, attention, cumulatives. La personne devra être âgée d'au moins 18 ans, donc inapplicable aux mineurs. Être de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France, l'objectif étant d'éviter un tourisme de la mort sur notre territoire. La troisième condition prévoit que cette personne doit être atteinte d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause qui engage le pronostic vital en phase avancée ou terminale. Quatrième condition, elle doit présenter une souffrance physique ou psychologique constante liée à cette affection, qui est soit réfractaire au traitement, soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d'arrêter de recevoir un traitement. Il est précisé qu'une souffrance psychologique seule ne peut pas permettre de bénéficier de cette aide active à mourir. Mais on verra que ça peut se discuter au regard des critères posés par la loi. Et
oui,
enfin...
Oui, parce que vous avez dit une souffrance physique ou psychologique.
Psychologique qui doit être liée à une souffrance physique.
D'accord.
Liée à la souffrance physique. Mais les critères posés par le texte, pour l'instant, ne sont pas,
selon moi,
juridiquement suffisamment stricts et précis. Et enfin, cinquième condition, c'est la condition de l'autonomie, c'est-à-dire que le patient doit avoir une aptitude à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. Donc, 5 conditions, je le répète, cumulatives. Donc ça, c'est censé, en tout cas, c'est censé, c'est ce que disent les défendeurs du texte, c'est censé incarner un texte d'équilibre avec des critères stricts qui représenterait un socle juridique solide et juridiquement précis. Mais tout se discute, bien évidemment, puisque pour les personnes qui sont plutôt hostiles à ce texte, au contraire, ces conditions seraient source de tromperie, il y aurait trop de flou, ce ne serait pas assez clair, et donc source d'insécurité juridique. Voilà. Bien évidemment, comme pour la sédation profonde et continue, vous avez une procédure collégiale, là encore. Mais, et ça a été assez critiqué par ceux qui sont, là encore, je le dis, plutôt contre ce texte, il ne faut pas oublier que malgré la réunion d'un collège, c'est in fine le médecin seul qui va prendre la décision. C'est lui qui va prendre la décision. Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure ? C'est que finalement, eh bien, c'est donner un pouvoir médical très important à ce médecin qui va prendre la décision finale de faire bénéficier ou non de l'aide active à mourir à son patient. Donc, ce fameux pouvoir médical, c'est vraiment le point d'achoppement et de discussion qu'on peut avoir sur ce texte.
Le point de discussion majeur, parce qu'on peut aussi discuter le principe même de donner la mort.
Oui.
Et évidemment, c'est ce principe même que s'oppose l'Église de France. Mais bon, l'Église de France n'est pas le législateur, mais l'Église de France est dans son rôle, et je pense que ce n'est pas la seule religion à exprimer des réserves lorsqu'elle dit que c'est le principe même qui n'est pas acceptable, parce que c'est une rupture avec, au fond, la culture de la vie en société depuis que l'homme existe, qui consiste à essayer justement de ne pas donner la mort. Et les religions se sont construites généralement sur ce principe-là, en tout cas la religion chrétienne. Donc là, tout d'un coup, on va autoriser quelqu'un à donner la mort. Alors, bien sûr, c'est encadré, il faut, etc. Mais bon, il y a ce principe. Les gens qui discutent le texte, effectivement, comme vous le dites, on dit, mais au fond, c'est le médecin qui va décider. Alors, ma question, c'est, est-ce que le médecin peut refuser à partir du moment, je dis bien, où les gens ont un droit, supposons que tous les médecins qui sont autour de lui refusent?
Oui, effectivement, le médecin peut utiliser sa clause de conscience, d'accord, pour refuser de pratiquer l'acte, d'accord ? Donc ça, c'est prévu par le texte, et c'est heureusement que c'est prévu par le texte, parce que c'est très important pour le médecin de pouvoir exprimer un avis personnel sur ce sujet.
Une question aussi grave, oui.
Exactement. Donc, une clause de conscience. Mais attention, cette clause de conscience, elle est pour le médecin. Par exemple, elle ne va pas s'appliquer au pharmacien qui va délivrer la substance létale. Et ça aussi, ça fait couler un petit peu d'encre. C'est-à-dire, certains ont dit, mais pourquoi le pharmacien, lui, ne pourrait pas également faire jouer une clause de conscience dans le cadre de la procédure d'aide active à mourir. Donc, pour en revenir au médecin, oui, le médecin peut s'opposer, tout à fait, mais il devra alors réorienter le patient vers...
Mais supposons, alors, pour éclairer ma lanterne, parce que je n'avais pas bien saisi ce point... Le médecin refuse, le pharmacien accepte de délivrer la substance létale à un proche de la personne en question.
Ah non, oui. Ça, c'est pas possible.
Le proche ne peut pas, lui, l'administrer. Il faut que ce soit un médecin.
Ah oui, il faut que ce soit. Le texte voilà, le prévoit, c'est un professionnel de santé. Alors, ab initio, il avait été évoqué la possibilité qu'un proche le fasse, mais ça a été retiré du texte. Parce que ça a été considéré comme étant trop violent psychologiquement pour un proche. Donc non, le proche ne peut pas faire ça.
Donc c'est nécessairement un médecin ou une infirmière.
Voilà, ou le texte dit un infirmier, une infirmière.
Ouais.
Voilà.
Bon, voilà. Si le médecin refuse, l'infirmière peut accepter ?
Ah ben, non, en principe c'est quand même encadré par le médecin. Hein. C'est quand même lui qui
Et
va
donc le médecin refuse, la personne dit « mais moi j'ai un droit ». Et donc, ce médecin ne veut pas me donner mon droit. Donc, il faut un autre médecin.
Alors, voilà, normalement, le médecin qui va exercer sa clause de conscience, eh bien, il va...
Il peut être contourné ?
Il va devoir réorienter le patient...
Vers un autre
médecin. Vers un autre médecin, un peu à l'instar de l'interruption volontaire de grossesse. Vous voyez ? Ouais. Un médecin qui en demande une IVG peut refuser, faire jouer sa clause de conscience également, mais il doit réorienter la patiente...
Vers
un confrère ou une consoeur qui accepterait.
Ouais. Et donc, là, on est sur l'état des discussions. Côté Sénat, à votre avis, tel qu'il est le texte, ça va passer ou pas passer ?
Alors, je vous avoue, je ne me risquerai pas à faire des prédictions, mais je pense que ça va prêter à de nombreuses discussions au Sénat, je le pense. Et puis, il y a quelque chose qui me tient à cœur, c'est vraiment ce pouvoir médical très fort qu'on fait reposer sur les épaules du médecin dans le cadre de cette procédure d'aide active à mourir, mériterait vraiment qu'on s'y penche, mériterait vraiment d'être discuté de nouveau. Parce qu'en plus, n'oublions pas que le texte prévoit également un délit d'entrave à l'aide à mourir qui expose, à mon sens, énormément les médecins.
Qui refuseraient.
Qui refuseraient ou qui voudraient être également dans la discussion, par exemple, pour du soin palliatif, vous voyez ?
Oui.
Où va être la frontière ? Où va être la limite entre un médecin qui va... orienter son patient vers du palliatif et celui qui va faire vraiment commettre un délit d'entrave à l'aide à mourir.
Eh bien, Lucie Sourza, merci pour tous ces éclairages sur ce texte qui est particulièrement important d'un point de vue anthropologique parce que, au fond, donner le droit de tuer, c'est une rupture sociétale importante et donc, il est important d'y voir clair. On attend les débats au Parlement et en tant que chrétien personnellement, j'espère qu'on travaillera comme l'ont demandé les évêques de France, plus sur le volet soins palliatifs que sur cette aide active à mourir qui donne droit de tuer en réalité. Or, il y a un principe fondamental dans la Bible, c'est tu ne tueras pas.
Et juridiquement, c'est aussi une exception à l'interdit pénal qu'il ne faut pas oublier également.
Merci beaucoup, Lucie Sourza.
Merci à vous.